Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Le 3 février de cette année 2009, il y aura donc tout juste 100 ans, que naissait la philosophe française Simone Weil. Née à Paris, dans une famille juive non pratiquante, Simone Weil étudie au lycée Henri IV avec le philosophe Alain. Suivant le modèle de son frère, brillant mathématicien, elle entre à l'école normale supérieure et passe son agrégation de philosophie en 1931. Elle enseigne ensuite au Puy, à Roanne, à Saint-Étienne, où elle se rapproche de la classe ouvrière. Elle écrit ses premiers essais, « Oppression et liberté », en confrontant sa conception du marxisme avec la réalité du travail qu'elle expérimente ensuite dans les usines Alstom et Renault. Toujours en quête d'absolu, Simone Weil rejoint le Front républicain espagnol. C'était en 1936. Elle connaît sa première révélation mystique à l'abbaye de Solesmes, 2 ans plus tard. Dès lors, elle veut comprendre, elle n'a de cesse de comprendre la volonté de Dieu et de l'articuler intellectuellement avec ses propres expériences religieuses. Elle donne dans « Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu » une interprétation mystique de la religion chrétienne, pleine de son désir de sacrifice. En 1942, forcée de se réfugier aux États-Unis, Simone Weil refuse de quitter ses compatriotes et revient aider les forces françaises libres en Angleterre. Atteinte de tuberculose, elle s'éteindra, se laissera mourir à 34 ans dans un sanatorium anglais à Ashford le 24 août 1943. Canal Académie a le grand plaisir d'organiser devant ses micros une rencontre autour de la pensée, de l'engagement de Simone Weil entre une cinéaste, Emanuela Piovano, bonjour Emanuela.
Bonjour.
Une comédienne, Lara Guirao, bonjour Lara.
Bonjour.
Et un auteur, Sylvie Weil, bonjour Sylvie.
Bonjour.
Sylvie Weil n'étant autre que la nièce de Simone Weil. Sylvie Weil, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, de nouvelles. Vous avez par ailleurs enseigné la littérature française dans plusieurs universités américaines. Et comme nom l'indique, vous êtes donc familialement très très proche de tous ces Weil. Et vous venez de faire éditer d'ailleurs chez Buchet-Chastel cet ouvrage intitulé « Chez les Weil » qui nous donne une perception singulière et rare des personnes qui finalement connaissent le mieux Simone Weil, ses personnages étant sa mère, son père, son frère. Des personnes à qui vous ressemblez, Sylvie Weil. Nous vous avons avec nous et nous avons sous les yeux la photo qui est parue donc chez Buchet-Chastel en première de couverture. Effectivement, il y a un air de ressemblance, un grand air de ressemblance entre la jeune fille, Sylvie Weil, qui a quel âge sur cette photo?
Elle a 13 ans.
13 ans. Et
Sylvie Weil, qui aurait l'âge d'être sa grand-mère à présent. Mais...
Donc de la transmission, absolument, déjà de façon génétique.
Oui.
Emanuela Piovano se trouve également avec nous sur Canal Académie. Vous êtes réalisatrice de films, donc de nationalité italienne, Emanuela. Donc spécialisée dans les longs-métrages, les courts-métrages, expliquez-nous.
Oui, spécialisée dans le long métrage, je dirais. Et c'est-à-dire, celui-ci, ça sera mon 5e film, long métrage. Et c'est le premier que je fais en coproduction, donc pas seulement italien. Et c'est un sujet que j'ai choisi parmi les autres, que j'ai porté au marché de Cannes il y a 5 ans et qui a été choisi parmi les autres par autres coproducteurs. Et de toute façon, le film est de majorité italienne. Parce que Simone Weil, c'est un personnage très étudié et très aimé en Italie depuis toujours. Depuis le premier, je crois qu'il a traduit dans le monde, et qui était Adriano Olivetti, le patron des usines aux machines à écrire. Et après ça, c'était 48-49, juste après la publication de son premier livre en France, en 47. Olivetti a utilisé le pensée, s'est inspiré à la pensée de Simone Weil pour en faire un mouvement politique. proche du syndicalisme, catholique aussi, mais illuminé, parce que lui, il était un patron d'usine et aussi s'est inspiré aux études de Simone Veil de l'organisation du travail pour organiser les usines des machines à écrire.
C'était une image emblématique qu'il recherchait, oui. Il l'a trouvée dans cette célèbre philosophe
oui,
française.
Oui, parce que la chose très étonnante de Simone Veil, pour laquelle je crois on l'aime encore, donc ce n'est pas un film biographique, que j'ai fait, et ce n'est même pas une reconstruction de sa biographie. Et surtout que Simone Veil ne se prête pas beaucoup à une biographie parce qu'elle est tellement fragmentaire, son œuvre, qu'elle se prête plutôt à tous les fois à une interprétation. C'est ce qu'il disait une très grande poète italienne qui s'était Cristina Campo, qui avait étudié pour longtemps parmi les poètes, et Elsa Morante. Elsa Morante a dédié une de ses plus belles poèmes, qui était Le monde sauvé par les petits-enfants, à Simone Veil. Et donc, et Rossellini aussi, Roberto Rossellini, en Europa 51, que c'est un film avec Ingrid Bergman très important, peu de personnes le savent, mais c'était explicitement inspiré à la vie de Simone Veil. Donc on se retrouve devant un personnage très évocatif et très susceptible d'interprétation. Donc notre film, ça sera un film sur une petite période de la vie de Simone Veil.
Et quelle période avez-vous choisi ?
C'est l'été 41, 2 ans avant de mourir. France occupée, son désir de partir pour Londres avec De Gaulle, l'attente donc de partir pour Londres, et la défaite, le sentiment de défaite de la guerre, des idéologies aussi, parce qu'elle avait beaucoup mis en discussion aussi le communisme.
Elle était à New York à ce moment-là, les deux États-Unis.
Non, elle est à Marseille.
Elle est à Marseille,
en
toujours.
En attendant
elle est toujours à Marseille.
D'être embarquée, justement, pour Princeton, où il y avait le frère, le père de Sylvie, non ? Ah bon, ça c'est...
Non, c'est pas pour Princeton, ça c'est venu beaucoup plus tard, non ? À New York.
À New York directement. Oui, à New York. Ah oui. Alors, excusez-moi.
Donc, elle n'est toujours pas partie à New York.
Pas encore. Et après, de New York, elle cherchera et arrivera à arriver à Londres avec De Gaulle, avec France Libre. Donc, le 41, c'est cette période d'attente et de
et d'écriture.
Mise en discussion.
Je crois qu'elle écrit beaucoup à cette époque.
Oui,
Sylvie
parce
Veil,
que c'est la période où elle choisit finalement de se approcher des travaux de l'agricole, après l'usine, après la pêche d'altitude, après presque tout ce qu'il fallait expérimenter, il se rapproche finalement des travaux de champs. Et dans ces travaux de champs, près de Marseille, en Ardèche, elle trouve une sorte d'extase aussi, de suspension aussi.
Près de la nature.
De réflexion de, un peu de toute son histoire. Auprès de ce monsieur très inquiétant, je ne sais pas qui est.
Un peu inquiétant, Gustave Thibon, oui.
Qui est Gustave Thibon, qui a risqué d'être aussi purgué par André Malraux et qui a réussi à ne pas l'être parce que c'est lui qui a donné à la France et au monde Simone Veil. Parce qu'il est mort, il vient de mourir, je crois, 4 ou 5 ans, presque centenaire. Un des plus grands philosophes réactionnaires et monarchiques dans la France que nous connaissons pour le côté républicaine et révolutionnaire. Donc, ça m'a étonnée en tant que cinéaste, donc cherchant...
Et c'est une amitié qui les lie ou
très grande amitié. Moi, je pense, Sylvie peut-être dira mieux que moi, mais la perception que j'ai eue en lisant leurs lettres à la Bibliothèque nationale française et aussi dans la biographie de beaucoup de gens qui ont tracé la biographie, c'était qu'il s'agissait pas seulement d'une amitié.
Oui, je crois que ça a été un sentiment très, très intense.
Et partagé.
Mais de la part de Gustave Thibon, je crois qu'il y a eu un mouvement de répulsion quand elle est arrivée.
Mais Sylvie Veil, avant d'évoquer plus avant le relationnel entre Gustave Thibon et Simone Veil, dont vous êtes la nièce, laissez-moi ouvrir rapidement avec quelques mots une parenthèse sur ce philosophe français, Gustave Thibon, qui est né à Saint-Marcel-d'Ardèche, une bien jolie commune de la région Rhône-Alpes. Gustave Thibon découvre très tôt la littérature. Sa jeunesse aventurière le conduit à Londres, en Italie, en Afrique du Nord. Les horreurs de la guerre 14-18 le marquent profondément et le confirment dans son rejet du patriotisme revanchard et de la démocratie. Souvent présenté comme un philosophe paysan, il a publié plus d'une vingtaine d'écrits. C'est en 1941 qu'il accueille Simone Veil dans sa ferme en Ardèche. Simone Veil, chassée de l'université parce que juive, elle va confier à Gustave Thibon le manuscrit de La Pesanteur et la Grâce qu'il publie en 1947. La Pesanteur et la Grâce n'est pas un livre de Gustave Thibon. Ce n'est pas non plus un livre de Simone Veil, c'est plutôt l'image que voulut donner en 1947 Gustave Thibon de Simone Veil. Alors, Sylvie Veil, je rappelle que vous êtes la nièce de Simone Veil. Comment cette relation avec Gustave Thibon évolua-t-elle dans le temps ?
Petit à petit, Gustave Thibon a appris à la connaître et il y a un sentiment très intense entre eux. Je suis tout à fait d'accord avec
d'accord,
Manuela.
D'accord, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va toucher.
Non, vous avez raison.
Parce qu'en fait, on fait des suppositions en tant que metteur en scène de quelque chose qu'on n'a pas vécu directement. Et il part 6 mois après en lui laissant tous les cahiers qu'il avait écrits dans un...
Dans une petite valise.
Et il lui dit, je pense que sous ma plume, et ces choses que j'ai écrites peut-être vont rassembler plus à vous qu'à moi. Et j'adore ça parce que moi, je ne voudrais pas être dans mon œuvre.
Oui, elle lui dit d'en faire ce qu'il veut.
Exactement. Et lui publiera le premier.
Ce qu'il va faire, d'ailleurs.
Ce qu'il va faire, absolument. Oui, oui,
alors,
sans problème.
Nous parlons de cette Simone Veil, de cette période de 1941, où elle est toujours dans le sud de la France. Et vous avez incarné la philosophe Simone Veil sous les traits de Lara Guirao, qui est avec nous. Alors, pourquoi le choix de cette jeune comédienne? Comment vous êtes-vous rencontrée? Et comment, Lara Guirao, avez-vous vécu ce cheminement, ce compagnonnage?
Moi, je m'apprêtais à partir pour New York, justement, rejoindre mon frère, qui vivait à New York à ce moment-là, c'était l'été. Et j'ai reçu un coup de fil d'un ami, Marc Perron, un ami très cher, qui est musicien, et que Manuela avait contacté, car elle lui parlait déjà de ce projet pour qu'il fasse la musique du film. Et elle dit, je cherche une comédienne française, une comédienne de théâtre, comme ci, comme ça. Elle lui fait la description de Simone Veil. Et Marc Perron lui dit, mais moi, je connais quelqu'un, tu pourrais peut-être la rencontrer. Et donc, il m'appelle et Emmanuel partait le soir même à Rome et moi, le lendemain matin, pour New York. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix. Et puis, elle commençait son film. Alors, mon mari, on était en voiture, a dit, bah, écoute, on va chercher Emmanuel là, chez Marc et on va l'accompagner à l'aéroport. Comme ça, vous pourrez discuter dans la voiture. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, le rendez-vous s'est fait comme ça. Emmanuela m'a raconté avec beaucoup de passion, comme ça, ce projet, cette vie. Et je sais que la première expression qui m'est venue, j'ai dit, c'était un pur esprit. Elle me dit, c'est exactement ça, c'est un pur esprit. Et alors après, je lui dis, mais est-ce qu'il faudra parler français ou italien? Elle m'a dit, non, français pour toi, tous les autres italiens, mais après on doublera. Et finalement, j'ai fait tout le film en italien, ne parlant pas italien. Donc ça, c'était...
C'était quoi? C'était un challenge?
Au fur et à mesure, après, j'ai dit, je peux essayer peut-être de faire une scène ou deux en italien, parce que le film se passe aujourd'hui. Et après, comme un retour en 1941, j'ai dit, les scènes d'aujourd'hui, comme elles sont peu nombreuses, je peux essayer de les faire en italien. Et puis, Emmanuela a pensé que j'allais faire tout le film en italien. Donc, elle a dit, non, mais tu vas voir, ne t'inquiète pas. Et voilà, donc ça c'est fait. Comment j'ai abordé ça? Moi, Simone Veil, je connaissais de nom, mais je ne connaissais pas, comme beaucoup, finalement, de gens. Je me rends compte aujourd'hui en parlant, parce que beaucoup font l'amalgame avec la femme politique.
La confusion.
Oui. Alors, je dis, non, pas la femme politique, la philosophe. Et j'ai dû me plonger vraiment dans ses écrits, mais pas trop, pas plus que ça. Alors, j'ai commencé par aller à la BNF et je dois dire que ma plus grande partie de travail et de recherche s'est faite là-bas en consultant ses cahiers. J'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à ses carnets, ses cahiers, et parfois pour donner vie à un personnage, parce que je pense pas, bien que je joue une philosophe, je voulais pas du tout l'intellectualiser. Elle a fait quand même dans son parcours de laisser tout ça pour aller dans les usines, travailler, toujours se confronter au concret, au réel, à la vie. Et en même temps, porter tout son savoir, ce que j'avais cru percevoir, aux plus humbles, aux plus pauvres. Et ça, en voyant ces carnets, qui étaient assez étonnants de par son écriture, les carnets étaient écrits un peu dans tous les sens. Et moi, par ailleurs, j'écris aussi beaucoup. J'ai des carnets aussi où j'écris à l'envers, à l'endroit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, par là, je peux y arriver. Je sais pas, c'est un détail. Voilà, j'ai vu que par ces carnets... Je comprenais de sa personnalité. de ce foisonnement, de ce besoin de précision. J'ai dit, je vais y arriver par là. Et puis, ce qui m'a guidée aussi, c'est l'absence totale de vouloir plaire. Voilà, quelque chose de brut. Pas de souci de plaire ou d'être jolie ou d'être... Donc ça donne une plus grande liberté pour être...
Essentiel
pour aller. Donc c'est par des petits détails comme ça que j'ai pu attraper. Et après, donc j'avais lu un texte ou deux, pas grand-chose. Et après, quand je suis rentrée d'Italie, j'ai lu plus de choses. Et je crois que c'était la bonne direction. Donc c'est par intuition qu'on arrive à faire, à donner vie parfois de manière juste, plus que par réflexion.
Physiquement, les avis sont divers, soit son côté garçon manqué, en tenue ou ouvrière, avec une ceinture à la taille, quelque chose. Et puis d'autres, comme Gustave Thibon, qui après ce premier choc, après ce premier passage, perçoit le regard, perçoit la vérité intérieure du regard, et alors là, entre en admiration par rapport à ce regard.
C'est qu'elle était brillantissime, quoi. Enfin, bon, donc, c'est quand même assez fascinant d'avoir des gens qui mettent des mots comme ça sur des pensées profondes. Enfin, je crois que c'est ça, surtout, qui attire, qui fascine et qui plaît. C'est vraiment son
oui, mais
esprit.
Je crois qu'elle l'a charmé aussi. Je suis persuadée que ma tante avait du charme. Parce que d'abord, si elle n'avait pas eu de charme, j'imagine qu'elle aurait eu beaucoup plus de mal à forcer les gens à la suivre dans ses projets les plus farfelus. Et elle a convaincu Thibon de la laisser dormir dans une espèce de hutte au fin fond de sa propriété. D'ailleurs, les gens du pays, certains disaient que c'était une sorcière, d'autres disaient que c'était la maîtresse de Thibon et qu'il l'avait mise à dormir par terre dans une hutte. Mais je crois qu'elle avait du charme, et Thibon dit deux ou trois mots de ce genre, et d'autres. Thibon dit qu'elle faisait des plaisanteries, qu'elle plaisantait. D'ailleurs, c'était quelquefois des plaisanteries qui tombaient mal, qui étaient un peu à faux, enfin, qui étaient maladroites,
oui,
parfois, mais qu'elle aimait rire et plaisanter.
Oui,
y avait le regard, mais je suis persuadée qu'elle avait.
Et un physique attachant, beaucoup de charme.
Oui, probablement.
Un physique moderne.
Disons que moi, ce que je pense par là, c'est qu'aucune conscience de ça, voilà. Je pense qu'elle n'avait pas conscience de ça.
C'est très possible.
Et c'est dans ça où moi, je ne voulais pas
perdre
m'en préoccuper.
Oui, 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 oui.
Et
ça,
pour moi,
bien.
La chose la plus juste était de ne me soucier guère de tout ça et d'être comme ça. Mm-hmm. Et après, évidemment, quand les gens ne se soucient pas et qu'il y a une telle vie, une telle vérité, c'est ça qui est attirant même.
Et Sylvie Veil, dans votre ouvrage qui vient donc de paraître chez Buchet-Chastel dernièrement, il y a tout un chapitre intitulé « Révélation ». C'est une révélation, certes, et de taille, mais qui dépasse, on peut le dire, le fait de la révélation, ce qui vous concerne, si je vous ai bien lu. C'est une révélation qui vous redonne votre vraie place, en quelque sorte, au sein de la constellation, comme vous le dites, familiale des Veil. Alors, bon, si les auditeurs veulent en savoir plus, ils se réfèrent à votre livre chez les Veil. Mais cette révélation est fondatrice de ce qui va suivre pour vous, en quelque sorte. Et puis, elle arrive maintenant. 100 ans après la naissance de...
La révélation est arrivée il y a un bon moment.
Vous l'exposez, pour nous.
Maintenant.
Pour nous.
C'est vrai, oui, je mentirais si je ne disais pas que le centenaire m'a un peu bousculée. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et puis, j'avais envie de parler de ça. Mais oui, je suis née l'année de la mort de Simone. Et d'une certaine manière, au point de vue de la famille, je suis née dans la mort de Simone. Et Simone m'a en quelque sorte laissée à la famille, léguée à sa famille, il y a des lettres d'ailleurs dans ce sens, et il m'a fallu très très longtemps pour comprendre la place que j'avais eue dans cette famille.
Fille spirituelle?
Oui, d'une certaine manière. Ouais, spirituelle, je ne dirais même pas spirituelle. Non, c'est une fille spirituelle, c'est autre chose. Je ne me suis pas lancée à sa suite. Je ne l'ai finalement très peu lue et seulement de façon sélective et à certains moments de ma vie. Donc, ce n'est pas une filiation spirituelle.
Comment vivez-vous cette transmission? Alors, si vous aviez des mots à mettre, vous qui le vivez de l'intérieur et génétiquement, en quelque sorte.
Mais le mot, c'est le mot que j'ai employé, c'est la place.
La
place qu'elle m'a donnée. donner la place que j'avais parmi les quatre survivants, mes grands-parents et mes parents.
Mais c'est important parce que c'est un travail qui continuait à se faire, un travail actif finalement qui continuait entre elle et vous et qui aboutit maintenant.
Oui, on pourrait dire cela, sans qu'il y ait de ma part une véritable poursuite de ma tante. Il y a une période où je l'ai lu beaucoup, mais je lisais surtout les cahiers, les choses personnelles et où je me suis sentie proche d'elle. C'est quand, c'est tout de suite après cette pneumonie où j'ai eu cette expérience un peu bizarre que je raconte avec humour, je crois, du tunnel et où j'avais donc exactement l'âge qu'elle avait quand elle est morte. Et c'est après, pendant ma convalescence, que j'ai commencé à me rapprocher d'elle. Je me disais, ça y est, j'ai son âge, je suis maintenant même un peu plus âgée, j'ai quelques mois de plus, je suis sa grande sœur, je peux la lire. Donc ça a été en pointillé, cette relation avec elle.
Lara Guirao, est-ce que c'est facile de quitter un tel personnage ?
Non.
Est-ce qu'on
non.
le quitte vraiment ?
Je ne sais pas, puisque la preuve, c'est que j'ai fini de lire le livre de Laura Adler hier soir, et je vais me procurer celui de Sylvie Veil, donc je ne la quitte pas vraiment. Non, je pense que c'est un enrichissement, voilà, c'est un enrichissement. Il y a des personnages... j'avais vu un film, c'est Al Pacino qui avait fait ce film. C'est le film où il jouait dans je crois que c'est Le Roi Lear, je sais plus. Il jouait ça et après on le voyait jouer au basket avec des gosses dans la rue. Et en même temps on passait à la pièce. Et je me dis, les rôles, c'est comme ça. Je passe dans la rue, mais derrière moi, j'ai quelques personnages comme ça sur mon dos. Et ça, c'est... Bon, voilà, c'est un parcours. Moi, j'ai joué Bérénice ou Elvire dans Don Juan. Ils sont derrière. Et là, il y a Simone Veil. Ce sont des personnages tellement riches, hors du commun, qui ne peuvent que nous enrichir. Donc moi, je fais ce métier pour ça, pour cette ouverture et cette connaissance que ça peut procurer, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc quand on a la chance de rencontrer des personnages comme ça incarnés, c'est...
Et qu'est-ce qui vous a plus sensibilisé par rapport à sa démarche, par rapport à son engagement ? C'est son engagement dans le domaine politique, de la vie politique, avec son engagement actif, que ce soit la guerre d'Espagne, que ce soit absolument aller sur le front, participer, être là, ou sa réflexion mystique et son envol vers Dieu.
Disons que, aussi, j'ai constaté que les gens parlent souvent de Simone Veil et ne connaissent beaucoup la pesanteur et la grâce. Et moi, je n'aime pas trop ça, parce que d'abord, ce n'est pas son livre à elle. Ce que j'ai aimé dans ces...
Alors, expliquez-nous, ce n'est pas son livre
à elle. Parce que c'est
elle.
Gustave Thibon qui a pris les trucs et qui en a fait ce qu'il voulait. Voilà ce qu'on disait au début.
Ah, tout à fait, oui, je choque tout le monde. Les gens me disent, ah, madame, j'ai lu la pesanteur
non,
et la grâce.
C'est
et j'en fais beaucoup de peine en leur disant, quelle horreur, il faut surtout que vous lisiez autre chose.
Voilà, et ça, on le sent, parce que quand on a lu les carnets, qu'on a vu les carnets, c'est un tel foisonnement, c'est une... Son processus de pensée ne va pas avec quelque chose
de carré
comme ça, c'est pas du tout ça. Et les gens connaissent beaucoup ça avec l'aspect.
Et c'est moi, une facilité.
Oui, je n'aime pas qu'on réduise Simone Veil à ça, parce que c'est comme si on oubliait ou qu'on ignorait tout ce qu'elle a vécu avant. Et moi, je pense que tout ce qu'elle a vécu avant est tellement intense, hors norme, impressionnant, que ça n'est intéressant de voir la suite que parce qu'on a connu d'avant elle, de son engagement politique. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi, qu'un professeur agrégé de philosophie décide de tout arrêter pour aller dans les usines et trouver la force d'écrire tous les soirs, au sortir de l'usine, combien elle avait fait de pièces, comment le contremaître lui avait parlé. Mais c'est un témoignage, mais c'est d'une rareté extrême. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée, oui.
Cette démarche, Sylvie Veil, comment est-ce que vous l'avez analysée ? Cette démarche d'aller sur le terrain, cette démarche que la vérité, c'est en se confrontant à la réalité de la vie et du monde, avec tout ce que ce monde peut comporter de douleur, de malheur, de souffrance, mais l'accepter et y participer. C'est une démarche qui vous parle, ou c'était des circonstances historiques particulières
Certainement, il y a eu des
tante.
Circonstances voilà. historiques particulières. Enfin, sa démarche est tout à fait intéressante et admirable. Oui, cette jeune femme qui veut aller faire le coup de fusil en Espagne, qui entre en usine alors que c'est vraiment pas la mode pour une jeune professeure de famille bourgeoise d'aller travailler à la usine. Plus tard, ça, c'est devenu plus à la mode. Puis elle a vraiment donné de sa personne à une époque où c'était pas du tout à la mode. Ce qui me fascine tout de même aussi, c'est la démarche de Lara. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle, de Simone comme marchand derrière elle, comme un personnage, au même titre que Bérénice. Je trouve ça absolument beau parce que moi aussi, Simone a beaucoup marché derrière moi, mais pas du tout au même titre que Bérénice. Et en même temps, dans la mesure où Simone était vraiment morte pour moi, j'ai beaucoup de mal à la voir comme vivante. Parce que, comme je l'ai dit, peut-être un peu pompeusement, je suis née dans sa mort, je viens au moment de sa mort, et donc je n'arrive pas à la voir comme quelqu'un de vivant, tout en admirant sa vie et ce qu'elle a fait. Mais alors, l'idée du personnage qui suit, donc elle... Oui, peut-être que c'est comme Bérénice, que je peux la voir comme ça aussi. Alors, je suis fascinée par ça.
Emanuela Piovano, un personnage à dimension dramatique, Simone Veil.
Moi, en tant que réalisatrice, je suis obligée à la voir devant moi. Moi, en tant que réalisatrice, je suis plutôt comme Orphée et je dois la voir devant moi. Je ne peux pas la voir derrière. Mais moi, je l'ai eue dans moi. Voilà. Je suis obligée à la voir. Et donc, c'est exactement le contraire du miroir qu'il faut faire. Et c'est terrible parce que c'est la première fois, de toute façon, que je hasarde de mettre en scène un personnage que je ne connais pas. Parce que les autres films que j'ai faits, ce sont tous d'actualité. Ils ne sont pas ambientés dans une autre époque que la nôtre. C'est la première fois qu'on dit des films en costume en Italie. Est-ce qu'on dit en France
oui,
des films
oui,
en
des
costume
films d'époque. D'époque.
C'est la
des
première fois que je fais un film d'époque. Et je ne l'aurais jamais fait si je ne pensais pas que c'était un film sur l'actualité. Parce que personne ne me l'a dit. Et ceux qui ont été fascinés par l'histoire, ce n'étaient pas des gens qui devaient mettre un film dans une histoire de Simone Veil. Voilà. Donc, ça a été pour moi aussi un pari et une première épreuve de ça. Alors, j'ai pensé à faire un film à la Giotto, le peintre italien. Mais même avec la photographie, même avec les plans de prise, on a cherché de faire un film où, toutes les fois, moi... La première, j'ai cherché à être quelque chose qui n'était pas là et que les gens et que les choses et les ciels et les vignobles, parce que c'est la période de la campagne, se passent comme il vient d'écrire à Gustave Thibon dans une de ses lettres. Il dit « Je voudrais que le paysage soit pendant que je ne le vois pas et que personne ne le voit. » Parce que c'est seulement comme ça que le créateur et la création peuvent s'échanger leurs secrets. C'est seulement dans cette mesure où je ne suis pas dans l'œuvre que l'œuvre peut manifester dans quelques mesures sa vérité ou son sens ou ce qu'elle aspire à être.
Voilà. Alors, quand pouvons-nous le constater
nous attendons tout de voir la réalisation finale.
Le film est en finition, mixage en ce moment.
Post-synchro,
mais il est distribué donc en Italie.
Alors, le film, c'est un film particulier, comme tous les films désormais. Et il y a vraiment deux catégories de films. Il y a un cinéma de recherche, d'approfondissement. Je n'ose pas dire d'auteur parce que je ne crois pas que ce soit la bonne diction de dire d'auteur. Je pense que le film, ce soit un travail collectif. Donc, c'est réductif de dire... Mais bon, on dit film d'auteur, ce n'est pas un film extrêmement... commercial. On est en train de toute façon de voir le public changer, surtout en Italie, parce qu'en France, vous êtes maître de ce point de vue-là. Et en Italie aussi, le public commence à avoir besoin de films qui ont des choses à dire et pas seulement d'entertainment pour s'amuser. Ça. Et ce n'est pas un film lourd, c'est un film très léger, très plein de petites plaisanteries qui peut-être n'aboutissent à rien, mais on a cherché aussi de faire de petites plaisanteries. C'est un personnage très, très souple. Il faut dire, on n'a jamais envisagé un film sur Simone Veil. Seulement Liliana Cavani, qui est la réalisatrice âgée, ma maître à moi aussi, elle a écrit un scénario en 1974 sur Simone Veil, publié par Einaudi, qui n'a jamais abouti dans un film. Et j'ai parlé avec elle, elle m'a dit « Mais non, mais je pense que ça ne soit pas actuel, ce personnage, ça était en 1974. » Mais parce qu'elle a envisagé le personnage de Simone Veil comme épique. Tandis que moi, j'ai complètement fait autre chose, je n'ai pris qu'un petit morceau de sa vie, qui me paraît emblématique, mais surtout qui était proche de période que l'on vit maintenant en Italie. Et Je ne savais pas que aussi en France, ça aurait été la même chose, c'est-à-dire de graves crises, de chute des idéaux. En 1941, de la France occupée, je pense aussi que générationnellement, je peux voir aussi ces choses un peu plus détachées. Je sais que la ligne d'ombre n'est pas exactement tracée, donc on est en train aussi dans cette période de revoir un peu l'histoire. Et ça m'intéressait beaucoup, cette alliance étrange, cette passion entre être appartenant à deux idéologies différentes. Donc une idéologie illuministe, de gauche élevée et israélitique. Et je voudrais aussi dire que Simone Veil était contre l'État d'Israël, par exemple, contre la constitution de l'État d'Israël. En ce moment-là, en Italie, il y a un très, très grand débat sur ce qui est en train d'arriver. Et donc, il y a beaucoup de problèmes avec les auteurs. Et par exemple, mon maître à penser, je suis agrégée en philosophie, qui est Gianni Vattimo, qui est un très grand philosophe, ou Giacomo Maramao, qui est de l'Académie française, ils ont protesté contre l'invitation d'Israël au Salon du Livre de Turin. Il y a tout un bouleversement. Et alors, c'est intéressant que à ce niveau-là, Simone Veil soit quelqu'un qui, de la constitution de l'État d'Israël, avait cherché...
Mais attendez, l'État d'Israël s'est constitué alors qu'elle était morte depuis 5 ans. Alors.
Oui, mais elle, avant, elle était déjà très grande.
Et quelle source avons-nous là-dessus par rapport à votre tante, Sylvie Veil? Quelle était son opinion?
Je n'ai jamais vraiment lu, maintenant il en existe peut-être, que Emmanuela connaît mieux que moi, mais enfin je n'ai pas vraiment lu.
Vous avez vos sources, Emmanuela, par rapport...
Oui, il y a par exemple, elle a beaucoup travaillé avec le mouvement du Maghreb. Il y a 2 jours que sur un des journaux plus lus, que c'est La République, ils sont parus 2 pages pour le centenaire de Simone Veil. Et la lecture qu'on a donnée était tout à faveur de son anticléricalisme, par exemple. Parce que toutes les fois que Simone Veil, on la repêche pour... C'est tellement éclectique, l'œuvre.
Je ne vois vraiment pas pourquoi on se servirait de Simone Veil pour faire une promotion sur les événements historiques actuels. On ne parle pas de Simone Veil pour ce qui se passe au Darfour. Voilà. On ne passe pas de Simone Veil pour ce qui se passe dans toutes sortes d'endroits du monde. Et je ne vois absolument pas pourquoi on se servirait d'elle pour les événements du Moyen-Orient.
Non, mais je suis sûre que ça va être utilisé.
Elle sert de drapeau à beaucoup de causes. Voilà. Quoi. Mais est-ce que ce sont vraiment les causes qu'elle a défendues? C'est ça le problème.
Pas
et
toujours.
Vous sentez une responsabilité par rapport justement au travail de votre tante, par rapport à ce qu'on peut lui faire dire et qu'elle n'a jamais dit? Est-ce que vous êtes arrivé de...
Oui, ça m'est arrivé, mais enfin, je ne me sens pas une
de responsabilité.
Je n'ai pas joué le rôle de gardienne. Elle a dit quantité de choses sur lesquelles je ne suis absolument pas en accord, en particulier, oui, sur toute ce qui est question juive. Je me situe tout à fait différemment, mais enfin, je ne me considère pas du tout comme la gardienne de... Quand en ma présence, on lui fait dire quelque chose qu'elle n'a pas dit, évidemment, je corrige, mais je me limite à ça.
De toute façon, c'est très intéressant au niveau aussi de catholicisme. Le fait qu'à un certain moment, la période où l'on s'en occupe dans le film, c'était la période où elle avait cherché à être baptisée. Et une des argumentations que les catholiques utilisent pour qu'ils ne l'ont pas voulu baptiser, c'était qu'elle était pour les origines grecques du catholicisme et non pas biblique. Donc elle niait l'origine hébraïque du catholicisme. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait, mais de toute façon, le film, c'est une histoire réaliste de la période dans la campagne, de la rencontre avec Gustave. Et j'espère que n'importe qui le voit ou s'approche du personnage revisite un peu ce qu'il a sur ses épaules ou ce qu'il a devant. C'est un personnage extrêmement plein d'espoir pour que les désirs, la pensée et la passion reviennent.
Il y a des textes qui, moi, me parlent beaucoup aujourd'hui. C'est au niveau de la vérité. Je pense qu'elle était vraiment, justement, très, très pointilleuse là-dessus, sur la vérité. Et elle, il y a un passage aussi où elle parle de ça, de cette vérité, qu'il est très important de vérifier avant de la dire, justement, dans les journaux, dans les radios, dans tous les médias. Et elle dit qu'on ne peut pas évoquer la simple bonne foi et que c'est criminel pour des gens qui écrivent des livres. Elle dit par exemple un travailleur qui a travaillé 8 heures par jour et qui après sa journée veut se cultiver, il prend tout ce qui est dans le livre, il n'a pas le loisir d'aller dans les bibliothèques pour vérifier. Oui. Et donc la personne qui écrit le livre a une lourde responsabilité, et si elle écrit des choses fausses, puisque son métier à elle c'est de vérifier, eh bien elle est passible de jugement et de sanctions. Et j'ai trouvé ce texte très actuel par rapport justement aux médias, au journalisme, et elle dit quelque chose de très important et qui malheureusement est toujours d'actualité. Voilà.
Ouais, très joli.
Eh bien écoutez, merci à toutes les trois d'avoir participé à cet échange sur la philosophe française Simone Veil, qui aurait dû fêter donc cette année 2009 ses 100 ans. Alors merci à toutes les trois. Merci.
Merci à vous.